c'est une association loi 1901 qui s'est créée à Rennes en 1992 et qui a pour objectif l'aide à la relation entre les enfants et les parents incarcérés sur tout le Grand Ouest pénitentiaire.
L'article 9 de la Convention des droits de l'enfant énonce que tout enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec le parent dont il vit séparé. Mais comment s'assurer que ce droit soit respecté pour tous les enfants qui ont un parent incarcéré ? C'est pour faire respecter ce droit que l'association Enjeux d'enfants a été créée. Entretenir le lien social parent-enfant, sensibiliser la société sur le monde carcéral, développer des actions collectives en prison, voilà autant d'objectifs que s'est donné l'association Enjeux d'enfants. Pour mieux comprendre la situation de cette association, ses buts, mais aussi ses difficultés liées au milieu carcéral, je me suis rendue dans leurs locaux. En pleine réunion, j'ai pu échanger avec Marine Boudier, la directrice de l'association, Valérie Troadec, une des éducatrices spécialisées, et également Valérie, une intervenante bénévole depuis 4 ans. Rencontre.
Alors les missions de l'association, c'est assez globalement de travailler sur la parentalité auprès des parents incarcérés et quand la situation le permet et qu'elle respecte l'intérêt de l'enfant, de mettre en place des accompagnements en parloir pour les enfants mineurs puisque ces derniers ne sont pas autorisés par la loi à aller rencontrer tout seuls leurs parents en parloir. En 2010, on a des demandes de parents qui ont vraiment augmenté par rapport aux autres années. Il y a 156 parents détenus qui nous ont sollicités en 2010 sur l'ensemble du Grand Ouest. 143 d'entre eux qui ont été rencontrés et 89 pour qui un suivi régulier s'est mis en place. Donc ça a représenté 240 entretiens individuels de parents incarcérés. Alors je donne des précisions sur ce chiffre d'entretien avec des parents incarcérés puisqu'on voit bien qu'on est sollicité par des parents non pas nécessairement pour des rencontres, pour mettre en place des rencontres physiques en parloir avec leurs enfants, mais quelquefois plutôt pour des entretiens de soutien sur ces questions de parentalité avec des parents, des pères, des jeunes pères par exemple, qui sont assez perdus ou assez désemparés par rapport à leur rôle de père, qui l'étaient déjà probablement un peu à l'extérieur, mais qu'ils sont d'autant plus qu'ils sont incarcérés et que la situation rend difficile les relations avec la famille, avec les enfants, notamment dans le cadre des parloirs, les parloirs étant un endroit assez paradoxal, ça s'appelle parloir, mais c'est quelquefois un peu compliqué de se parler dans un espace très, très restreint et puis sur une durée qui peut paraître courte aux parents, mais très longue pour l'enfant, par exemple. Enfin, voilà, avec ce type de paramètres à prendre en compte.
Peut-être pour conclure, alors on s'arrête sur quoi ? Toi, tu récupères le jeune à la gare mardi prochain.
Voilà.
Donc tu as le train qui arrive, comme
j'ai un
tu dis avec l'éducateur.
Je vais le chercher.
Ouais. Tu as le parloir à 14h45.
Voilà, ça fait déjà deux fois que je l'emmène voir son père en parloir. Donc là, ça sera la troisième fois.
Donc tu auras le temps en fait, de faire un point avec lui avant le parloir, de toute façon.
Voilà, on va faire ça. On va, donc je vais le chercher à la gare. On a le temps un petit peu de discuter dans la voiture, on a le temps de discuter un petit peu avant le parloir, parce qu'il y a toujours des délais.
C'est vrai que c'est vraiment important.
Et on fait le point.
On verra comment ça va se passer, on a calé les choses avec monsieur, on va voir si vraiment il va aborder les questions qui ont été vues avec lui en entretien. Ça, je veux dire, on ne peut pas maîtriser non plus. Hein. Après, comme tu dis, hein, il a peut-être envie d'être tranquille aussi, donc il ne faut peut-être pas ressasser
trop. Oui, en général, quand on ressort, ils sont souvent... normalement assez détendu, enfin les choses sont dites, le stress de la prison en elle-même, hein, des portes, des bruits est passé. Et en général, ils n'ont pas toujours envie de parler. Au début, avant de rentrer, il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup d'attente. Et souvent, pas toujours bien sûr, mais souvent, ils sont assez apaisés après. Donc là, dans le cas de ce jeune-là, souvent, il est assez apaisé après. Enfin, une fois, un parloir, ça a été... difficile parce que ça a été brutal. On n'avait pas préparé la séparation. pendant l'heure de... On s'est fait un peu surprendre, et donc ça avait été difficile pour lui. Et bon, là, on va faire... voilà. Et là, on va faire attention. Maintenant, on fait attention, et ça se passe mieux. Et,
Je m'intègre dans votre discussion. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là?
Alors là, on est en train de récapituler un petit peu ce qu'on va faire, parce qu'il y a donc un suivi, enfin, d'un enfant qu'on amène voir son père. Donc on a déjà eu deux parloirs avec cet enfant qu'on emmène deux fois voir son père, à peu près une cadence de tous les mois. Et donc là, ça va être la troisième fois qu'on l'emmène. Et le mois dernier, le père a été malade. Enfin, on n'a pas eu d'explication très, très claire et très précise. Et donc là, on emmène l'enfant, donc on ne sait pas si en effet... il a été prévenu que son père était malade, comment il a été prévenu qu'on a annulé. Toutes ces petites choses qui ont l'air totalement anodines comme ça, on se dit pourquoi tant d'histoires autour de ça. Et parce que pour l'enfant, en fait, il vit quelque chose de très très difficile, et parfois c'est pas compris, parfois c'est très nébuleux pour un enfant. Et donc c'est pour ça qu'on a l'air un petit peu d'insister sur toutes ces petites choses. Mais donc on va expliquer un peu à l'enfant tout ce qui s'est passé, comment il a vécu ça, le fait d'attendre un mois de plus. Voilà, est-ce qu'il a...
Qui lui a expliqué que son père ne voulait pas le voir. Qu'est-ce qu'il a compris de tout ça, quoi, et comment il vit le moment, parce que c'est... Il y a quelque chose de très douloureux là actuellement pour les parents, et comment le gamin vit ça, quoi.
Et puis bon, question pratique, il faut trouver les trains, il faut pas laisser un enfant à la gare, donc on est là à faire beaucoup d'horaires, voilà. Donc il y a beaucoup d'horaires, il y a beaucoup de trains, il faut qu'on soit là pour l'enfant, qu'il soit pas tout seul sur le quai. On l'emmène donc matériellement, on l'emmène en voiture. La part logistique est très importante aussi, parce que et les heures de parloir, il faut donc les réserver avant les parloirs, on peut pas arriver comme ça. Il faut le réserver à l'avance, donc ça c'est la secrétaire qui réserve des parloirs, donc ça veut dire qu'on en a parlé avant, qu'on a pris des rendez-vous avant, et voilà, c'est tout le côté, en effet, logistique qui est quand même très important aussi.
Donc, vous êtes un binôme de l'association, toutes les deux, vous vous réunissez comme ça régulièrement?
À chaque parloir, en fait, l'éducatrice et l'intervenant qui accompagnent un enfant en parloir se réunissent avant et après la rencontre, avant pour la préparer, d'un point de vue logistique, un peu ce qu'on vient de faire. Et aussi, c'est ce qu'on appelle faire un point, c'est-à-dire se dire, là on accompagne un jeune rencontrer son père, pourquoi? C'est quoi l'objectif de la rencontre? Qu'est-ce qu'il y a à travailler dans la relation du père à son fils? Donc voilà, on a travaillé ça avec monsieur dans le cadre d'un entretien la semaine dernière. Là, on va accompagner son fils la semaine prochaine, donc on est en train de préparer ça. Là, avec vous, on parlait plutôt, on va dire, de la préparation un peu logistique, parce que c'est une logistique assez lourde, mine de rien. C'est les enfants qui viennent d'autres départements, on travaille aussi avec les services sociaux, donc il y a des points à faire à ce niveau-là. Valérie accompagnera le jeune fin avril. Et ensuite, après la rencontre, on se reverra pour voir comment s'est passée la rencontre. Qu'est-ce que le père a pu dire à son fils de ce qu'on avait échangé avec lui en entretien individuel, comment le jeune a réagi, que ce soit en termes de questions ou en termes de comportement aussi. Parce qu'en fait, la communication, ça passe par de la gestuelle ou de la parole. C'est pas que verbal, quoi. C'est tout ça qu'on observe aussi dans la rencontre. La relation, elle est nourrie d'attitude et d'oralité, quoi. Donc, nous, c'est tout ça un peu qu'on vient observer, qu'on vient écouter. Donc, voilà. C'est que des allers-retours entre l'éducatrice et l'intervenant qui accompagne l'enfant en parloir, entre l'intervenant et le père en entretien individuel, entre l'intervenant et l'enfant en entretien individuel, et puis entre le père, l'enfant et l'intervenant dans le cadre de rencontre. Voilà. C'est plein de mise au point, d'aller et retour, de mise en mots, de tout ce qu'on observe, de tout ce qui se joue dans la relation.
C'est aussi important de vous réunir régulièrement, de se mettre d'accord, etc.
C'est primordial. On ne pourrait pas du tout travailler comme ça, seul. D'abord parce que c'est un poids. Faut reconnaître que c'est quelque chose de... Parfois des situations assez lourdes. Et donc, de pouvoir en parler, c'est très, très important, non seulement pour soi-même d'en parler, et puis pour y voir clair, parce que parfois, on est impliqué dans une situation, parce qu'on n'y voit pas toujours clair. Et donc, on travaille avec des gens, on travaille avec des sentiments, des douleurs, des non-dits. Donc, on n'est pas toujours capable seul de se détacher de ça ou de comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est bien d'être plusieurs dans la même situation pour en parler. Et de toute façon, c'est pas souhaitable, en fait, parce qu'on n'a que notre opinion ou que notre senti. Et l'apport des autres est très, très important. Thank you.
le binôme, on va dire, éducatrice intervenant bénévole fonctionne sur l'ensemble de nos situations d'accompagnement d'enfants, mais les intervenants peuvent être aussi sollicités pour intervenir sur d'autres types d'actions de l'association, qui sont plutôt la mise en place d'actions collectives, par exemple auprès des parents en détention. Donc les éducatrices rencontrent très régulièrement les intervenants bénévoles. Alors on parle d'intervenants bénévoles, on parle souvent en fait d'intervenants en tout court, parce que pour nous on ne fait pas de différence entre les professionnels et les bénévoles, comme c'est le cas dans d'autres milieux, mais plutôt entre salariés et bénévoles, parce qu'on estime que la différence ne se fait pas sur le professionnalisme. On encadre et on a les mêmes exigences vis-à-vis des bénévoles que vis-à-vis des salariés en termes de formation continue, en tout cas de celle qu'on peut dispenser à l'association, et puis en termes de régularité et d'exigence dans les accompagnements.
Donc je suis intervenante bénévole à l'association depuis 4 ans. Et donc j'ai connu l'association par une amie qui y travaille et qui m'a proposé, donc qui cherchait des bénévoles. Et assez vite, j'ai passé le pas, quoi. J'ai adhéré. Tout ce qu'il m'a été dit m'ont attiré petit à petit. Et puis ça a cheminé petit à petit, parce qu'il faut c'est une association, il faut un petit peu un temps pour y rentrer, quoi. Il faut dans sa tête, il faut être assez clair. Donc, en fait, c'est l'association le demande, hein, de mûrir ça un petit peu, parce que comme c'est un engagement important dans un milieu totalement différent en général de ce qu'on connaît habituellement. Donc, de bien réfléchir à pourquoi on s'engage et si on est décidé et pas de juste faire un petit peu en touriste, quoi. Voilà.
Et moi, mon travail, c'est à ce moment-là. C'est pas moi qui vais être présente en parloir, mais je vais rester plutôt en fil rouge. Donc le rôle de l'éducatrice à ce moment-là, c'est de faire un point avant les rencontres en parloir et ensuite après avec les intervenants, quoi. C'est-à-dire moi je suis éducatrice de formation, donc avec un regard de professionnel sur la situation. Je ne suis pas présente sur le temps de la rencontre, mais voilà, avec un regard un petit peu décalé, c'est d'aider l'intervenant bénévole à voir comment accompagner la relation enfant-parent. Donc voilà en gros le travail de l'éducatrice en jeune enfant. Au départ, j'étais pas du tout partie sur le milieu carcéral. Hein. Pourquoi le travail social ? Parce que je trouve que c'est un beau métier, un métier de contact, de lien, voilà. Ensuite, moi, j'ai toujours été intéressée, avant d'avoir travaillé auprès des personnes détenues, je travaillais auprès des gens du voyage. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans les relations familiales, le lien des uns aux autres, quelles relations on noue dans la famille. Voilà, donc voilà toujours l'intérêt de l'enfant aussi. Une famille, c'est un père, une mère et un enfant. Donc il y a quelque chose autour de la famille qui m'intéresse, autour des droits des enfants. Et puis ensuite, pourquoi le milieu carcéral ? Parce que voilà, derrière les murs, eh ben il y a peu de personnes qui y vont. Derrière ces murs-là, il y a des gens comme vous et moi, avec voilà des difficultés de vie et comme pour les gens du voyage qui eux vivent dans des sur des campements, il y a peu de monde à y aller. J'ai toujours été intéressée par aller voir l'autre côté des murs en fait, ou des grilles, ou de voilà, c'est qui ces gens qu'on voit pas, qu'on côtoie pas. Donc voilà, le milieu carcéral c'est un peu ouvrir les murs pour aller voir qui sont les personnes derrière ces murs. Donc voilà, il y a vraiment deux aspects, le côté intérêt de l'enfant, sa place dans la famille, c'est quoi la famille, c'est quoi l'histoire familiale, qu'est-ce qu'on se transmet d'une génération à l'autre, et puis une part de curiosité, aller voir derrière les murs qui sont ces gens-là, malgré ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, ça reste des personnes, et voilà, je reste persuadée qu'il y a tout un travail à faire pour aider l'enfant à se construire avec son histoire familiale, quoi qu'ait fait son parent.
Je voulais faire une démarche bénévole, de toute façon je voulais être dans une association, et j'en avais fait d'autres, enfin bon, et celle-ci, ce qui m'a attirée, c'est d'abord de rentrer dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout et avec un gros a priori. Et ça, c'est quelque chose qui m'a attirée, en fait, on peut dire quand même, parce que le milieu carcéral, enfin, l'incarcération, tout ça fait très peur. Les gens en ont toute une idée, un petit peu, je sais pas, véhiculée par la télévision, enfin bon. Et donc ça, de ce côté-là aussi, je me sentais concernée, en fait, par des gens qui sont emprisonnés. Je trouvais que c'est quand même quelque chose de terrible, quoi. Et puis, le biais, surtout, enfin, c'est les enfants, en fait, au départ. C'est-à-dire qu'au départ, ce qui m'a attirée, c'est d'aider des enfants à mieux connaître leurs parents, à passer cette période de vie qui est épouvantable, en fait, quelque part. Enfin, qui n'est pas épouvantable, mais qui est très difficile à... Et par ça, je me suis aperçue qu'en fait, je rentrais dans des familles, dans des gens qui avaient... des problèmes, qui passaient des moments très difficiles de leur vie et qui passaient d'aider un peu les enfants dans cette période-là, quoi.
Le message qu'on veut faire passer aussi, il y a une autre de nos missions qui consiste justement à vouloir sensibiliser, à informer et former un public le plus large possible sur les thèmes de l'incarcération, bien sûr, mais on va dire plus spécifiquement des incidences de l'incarcération sur l'ensemble de la structure familiale. Donc nous, on travaille beaucoup avec les enfants, mais on a vraiment envie de sensibiliser aussi aux effets que l'incarcération peut avoir sur la structure familiale entière, c'est-à-dire le conjoint ou l'ex-conjoint, mais aussi souvent les frères et sœurs, enfin toute une structure familiale qui vient être bouleversée par une incarcération, surtout si elle est longue, mais pas seulement. Donc ce qu'on voudrait faire passer comme message, c'est vraiment que les personnes qui sont en situation d'être incarcérées et notamment qui sont en situation d'être parents incarcérés, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Les personnes qu'on rencontre ne sont pas très différentes de celles qu'on rencontre dans d'autres contextes à l'extérieur. Et puis on voudrait aussi faire passer évidemment le message que la stigmatisation des familles de détenus, des enfants détenus, elle est vraiment très nocive, évidemment, à l'épanouissement des enfants. Je pense au contexte scolaire, notamment, de pouvoir expliquer à son enfant que le copain ou la copine qui a un parent incarcéré, voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce qui a pu mener le parent là, peut-être, ou en tout cas de pas stigmatiser le copain ou la copine dans la cour de l'école. Ne serait-ce que des petits gestes comme ça, ça peut être important, et puis essayer vraiment d'être conscient des enjeux que ça peut avoir pour les familles en termes financiers, en termes d'organisation familiale, en termes de déstructuration, etc., de honte. C'est des termes qui reviennent très très souvent, ça, la culpabilité et la honte dans les familles qu'on accompagne. Donc on essaye vraiment de faire passer un message comme quoi, voilà, on est tous concernés par cette question-là, qu'on soit concerné directement dans sa propre structure familiale, mais aussi dans sa structure sociale plus large. Un des aspects de nos accompagnements, ça consiste vraiment en recréer ou créer du lien pour des familles qui, en général, se sont tenues assez longtemps loin des réseaux sociaux habituels, que ce soit avec des interlocuteurs sociaux, dont type éducateurs, travailleurs sociaux, etc., mais qui ont eu aussi du mal à développer leurs liens sociaux en général, avec leurs voisins, avec des amis, etc., et qui sont finalement des familles assez isolées et qui, du fait de l'incarcération, entretiennent quelque chose de cet isolement-là ou même voient l'isolement s'accentuer beaucoup. Donc on essaye vraiment de travailler avec elles pour créer ou recréer du lien entre elles dans la famille, ce qui n'est pas toujours évident. J'ai en tête l'exemple d'une famille. Le père a été incarcéré pour avoir tué la mère. Et les trois enfants ont été confiés, répartis dans trois familles d'accueil qui sont les frères et sœurs de madame. Donc évidemment, c'est compliqué pour eux de se mettre complètement au diapason sur la façon de parler de l'incarcération et de la façon dont eux-mêmes vivent l'incarcération et les actes commis par le père, par leur beau-frère, exactement de la même façon aux trois enfants. Donc on va vraiment, dans cette situation-là, avoir en tête de pouvoir maintenir un lien entre ces familles-là qui se parlent mais qui ont beaucoup de mal à parler de l'incarcération et qui ont beaucoup de mal aussi à parler de l'incarcération aux enfants concernés. Donc on va vraiment travailler là-dessus. On pense pas, on On n'a pas comme vocation de travailler directement sur une visée, une thématique de réinsertion, mais on pense que l'action qu'on met en place peut avoir un effet positif sur cette dynamique-là.
Vous disiez de ne pas travailler sur la réinsertion, c'est le cas finalement. Enfin, dans les valeurs, il n'y a pas la réinsertion.
On n'est pas directement sur une dynamique de réinsertion. Après, dans nos valeurs, il y a vraiment l'idée de travailler sur la responsabilisation du parent. Et dans ce sens-là, on imagine que les effets qu'on a envie d'avoir d'avoir dans les situations qu'on accompagne, sur la prise de conscience quelquefois, ou en tout cas le développement de cette conscience-là de responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants, elle est opérante pendant l'incarcération, quand ça fonctionne, mais elle est opérante aussi au-delà. Et donc les parents peuvent aussi avoir travaillé sur quelque chose qu'ils pourront maintenir une fois qu'ils seront sortis de prison.
C'est-à-dire que la transmission, c'est-à-dire que ça recrée du lien social et pour les familles du lien familial et la transmission de ce que les... Parfois, quand on s'aperçoit que quand on discute avec des parents, enfin incarcérés, donc mère ou père, on a l'impression qu'ils sont très démunis en fait. Ils ne savent pas où dans leur vie ça a été chaotique. Leur propre histoire d'enfant a été chaotique et donc en fait ils ne savent pas faire. Parfois ils manquent pas de mauvaise volonté, mais ils ne savent pas. Et enfin, quand je dis ils ne savent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les ressources. Et puis, le fait de l'incarcération fait qu'ils pensent qu'ils ne le méritent pas ou ils pensent qu'ils ne peuvent plus le faire. Et c'est un choc énorme et où ils démissionnent presque. Alors qu'en fait, on est là peut-être pour leur dire que c'est possible quoi, de continuer à être père ou mère malgré ce qui leur est arrivé et que... Parfois, on les guide un peu, mais c'est prétentieux de dire ça. Mais enfin, on les restaure un peu dans leur rôle de père et de mère. On restaure la relation pour l'enfant. Et je pense que ça, c'est important, ce lien-là, qu'on garde, en fait.
Oui, déjà, si je n'avais pas le sentiment d'être utile, je ne resterais pas. Après, je crois que c'est tout petit ce qu'on fait. Des fois, on le voit pas tout de suite. C'est sur du long terme. Et puis, faut se dire, mais dans tout travail social, pas forcément en jeu d'enfant, mais je crois qu'en tant que travailleur social, faut se fixer des objectifs, mais tout petit. Et c'est ça qui fait avancer. Faut toujours rester optimiste avec une part de réalisme énorme. Faut vouloir pour les personnes qu'on accompagne, mais faut surtout les aider à se prendre en charge. Et ça, je le vois au quotidien, tous les jours. C'est des toutes petites avancées. Alors des fois, on va enfoncer d'un pas, on va reculer de trois. Mais sur la durée, ça va vraiment être des petits pas qui vont faire que voilà, ça chemine. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Valérie. On parlait d'une situation, on se dit... on rencontre un parent, une famille, voilà, on va discuter avec lui, échanger avec ce parent-là pendant une heure. On a l'impression de pas avancer, en même temps, on distille des petits bouts de plein de petites choses qui font que, à un moment, on voit dans leur regard ou dans un acte posé quelques temps après que, bah voilà, ce que j'ai dit l'autre jour, ça a fait son petit bout de chemin, c'est une petite pierre plus une autre, mais c'est tout petit. Mais voilà, on voit les choses qui avancent tout doucement, à leur rythme. Et faut pas vouloir trop vite. Nous, on se dit que l'urgence, ça n'existe pas. On travaille vraiment avec le temps. On prend le temps. Et c'est comme ça qu'on va permettre aux gens d'avancer avec ce qu'ils ont en eux et pas nous, ce qu'on a. On les aide avec ce que nous, on a. Mais c'est eux qui vont faire avec ce qu'ils ont, quoi. Et tout doucement, à leur rythme.
Oui, il y a eu des moments où on a du retour. Parfois, on n'a pas de retour. On ne sait pas. Parfois on s'en rend très bien compte, enfin même très souvent on s'en rend compte. Par exemple, je me rappelle d'une jeune femme, son compagnon était incarcéré et elle n'arrivait pas à dire à l'enfant ce qui se passait, qu'elle risquait aussi d'être condamnée. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment de vraiment être très efficace pour aider cet enfant à comprendre ce qui se passait, aider la mère qui m'a d'ailleurs. Était très reconnaissante de ça, d'éclaircir les choses, de l'aider dans ces moments difficiles. Et puis d'autres familles aussi, où quand on emmène les enfants et que on voit que les choses se passent bien, que les enfants voient leur père, qu'ils le voient, que le père voit du coup ses enfants grandir, lui raconter ce qu'ils font à l'extérieur. C'est très valorisant de voir qu'il y a quelque chose qui se passe et que ben, c'est quand même un petit peu grâce à vous, parce que vous emmenez, vous faites que ça se passe, que ça se fait, quoi.
la difficulté, elle est aussi, alors évidemment dans les thèmes qu'on aborde, puisque globalement, donc les motifs d'incarcération sont des motifs graves et lourds qui ont à voir avec la plupart du temps avec, comme je disais, l'intrafamilial, c'est-à-dire des situations d'affaires de mœurs, enfin d'abus sexuels intrafamiliales, des homicides, des infanticides, etc. Donc c'est vrai que c'est de toute façon des thématiques et des motifs d'incarcération assez lourds. Donc on imagine bien qu'avec ces motifs-là, les familles, les services, quelquefois, peuvent être assez réticents à venir poser la question de la relation enfant-parent, avec l'idée un peu fantasmée, j'allais dire, que la protection de l'enfant passerait nécessairement par l'idée de couper tout contact avec le parent incarcéré. Alors même si nous, dans l'association, on n'est pas pour la mise en place de relations, de parloirs à tout prix, on n'est absolument pas dans cette dynamique-là, on trouve intéressant de toute façon, dans toutes les situations, d'aller poser la question de ce qu'était la relation avant l'incarcération et de ce qu'est la relation aujourd'hui, et de quelle représentation l'enfant se fait aussi de cette relation-là, de là où se trouve le parent, qu'est-ce qu'on lui en a raconté, etc. Parce qu'on se rend compte que chez la plupart des enfants, surtout les enfants jeunes, le monde fantasmatique dans lequel ils vivent est vraiment très foisonnant, et ce qu'ils imaginent de là où se trouve le parent, de ce que le parent a fait, etc., est souvent bien pire que finalement que la réalité. Donc vouloir le préserver à tout prix d'une réalité, c'est quelquefois pire à notre sens, en tout cas, que l'idée de pouvoir en parler avec lui, de pouvoir mettre en mots, avec évidemment un vocabulaire, un rythme adapté à l'enfant. On n'est pas du tout dans le dire à tout prix et à n'importe quel prix, n'importe comment, absolument pas, mais les éducatrices et puis les intervenants sont là pour ça aussi, sont formés à ça et sont en capacité de pouvoir aider les professionnels qui se posent la question ou intervenir elles-mêmes directement auprès des familles pour pouvoir aider le parent incarcéré ou l'autre parent, par exemple, à pouvoir poser des mots sur l'incarcération, ce qui est souvent compliqué. Donc ça, ça peut être une des difficultés. Ensuite, une autre difficulté, ça peut être vraiment de travailler sur les représentations de chacun. On a affaire de notre place à un ensemble de partenaires très variés, que ce soit des partenaires du côté de l'administration pénitentiaire, donc toute l'administration pénitentiaire, les surveillants, les conseillers d'insertion, les directeurs d'établissement, etc. Et puis, j'allais dire, d'un autre côté, en tout cas à l'extérieur, avec beaucoup d'interlocuteurs du côté de la protection de l'enfance, donc l'aide sociale à l'enfance, etc., des partenaires associatifs, voilà, un ensemble de partenaires assez variés. Et on voit bien que les représentations des uns et des autres sur le monde carcéral, sur la relation enfant-parent en général, sur les motifs d'incarcération qui ont poussé le parent à en être là où il en est, c'est-à-dire incarcéré, sont quelquefois difficiles à surmonter. Donc il peut y avoir un peu l'idée du côté des éducateurs quelquefois que ou des familles à l'extérieur que emmener l'enfant voir son parent en prison, ça va être traumatisant, que l'enfant n'est pas forcément en âge de franchir les portes de la prison, de comprendre aussi, de mettre du sens sur ce que représente l'incarcération. Et puis à l'inverse, quelquefois chez les partenaires pénitentiaires, c'est absolument pas le cas partout, mais ça arrive aussi que l'idée que les enfants viennent rencontrer le parent, ça va apaiser le parent, ça va pouvoir apporter quelque chose aux parents incarcérés sans nécessairement aller regarder plus loin du côté de la situation de l'enfant et de ses besoins à lui.
Les gens qui sont incarcérés ont eu des histoires enfin compliquées, il y a des choses qui ont été ratées, c'est des familles sans doute toujours pas construites, enfin bon, et l'enfant là-dedans, c'est tout fracturé, quoi. Enfin, c'est une histoire. Le message, c'est que les gens ont besoin quand même pour les enfants pour grandir, pour se fabriquer, de connaître leurs parents, enfin de les voir tels qu'ils sont, même s'ils sont en prison, de les voir, quoi, ne pas les imaginer ou de rêver quelque chose qui n'existe pas, et donc. C'est de l'extérieur que les gens réalisent qu'il y a des êtres humains derrière les murs et que leur vie n'a pas toujours été simple et que quand on parle de circonstances atténuantes, quelque part, c'est réel, quoi. Il y a des gens qui ont eu des démarrages de vie très compliqués. J'excuse pas tout le monde, c'est pas de l'angélisme, hein. Je suis pas contre l'incarcération ni tout ça, il faut pas. Mais les gens derrière, il y a des êtres humains, quoi, et ils sont comme tout le monde, malgré ce qu'ils ont fait. ils ont des enfants, ils ont une vie, ils ont des chagrins et des douleurs. Et donc c'est ça qui, je trouve important, enfin, de participer à essayer d'adoucir, même si c'est pas toute petite pierre à l'édifice.
Derrière les murs, au-delà des actes, hein, c'est vrai qu'actuellement on parle beaucoup des actes, j'entends des mots assez durs dans les médias ou dans les gens qu'on rencontre au quotidien aussi, hein, par rapport à des faits d'actualité. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que derrière les murs des prisons, il y a des personnes qui ont commis des actes horribles, mais ça reste des personnes. Et si on prend le temps d'aller vraiment les rencontrer, de les entendre à leur sujet et de pas les réduire à leur acte, là, je crois que la société va avancer. Mais pour tout le monde, quoi. Donc voilà, écoutez, allez au-devant de ces personnes-là et écoutez-les et ne vous arrêtez pas à l'image qu'elles renvoient et à ce qu'elles ont fait. Ne les réduisez pas à leur acte. Mais derrière chaque acte, il y a des personnes avec une histoire.